Bonjour, je m'appelle Benoît et vous êtes sur Vous faites vraiment un beau métier, épisode spécial Noël. Vous faites vraiment un beau métier, c'est le podcast des artistes et autres saltimbanques. Et pour cet épisode spécial Noël, on peut dire qu'on n'a pas fait les choses à moitié puisque nous n'avons pas un, mais deux artistes avec nous. Ils ont triomphé durant toute une saison à l'affiche du Théâtre Mogador où ils jouaient tous les soirs Grease, l'adaptation du film musical avec John Travolta et Olivia Newton-John. Ils sont sur le point de reformer le cast de Grease pour une soirée exceptionnelle le 31 décembre à Paris. Bonjour Alexis Loison et Dorian Bellemin.
Bonjour.
Alexis, toi tu jouais Danny Zuko, le rôle interprété par John Travolta. Et Dorian, tu jouais Doody.
Exactement.
Interprété par...
Par Doody.
Vous avez eu l'idée géniale d'organiser un réveillon Grease à Paris le 31 décembre auquel vous participerez ainsi qu'une partie du cast.
Exactement.
On verra comment... Et qu'est-ce qui attend les personnes qui vont réveillonner avec vous tout à l'heure. Mais avant, on va se replonger dans l'aventure Grease qui a duré quasi un an pour vous, en commençant par le début, en commençant par les castings. Et c'est la première partie de notre épisode Top Jingle. Alors, ma première question, c'est... comment est-ce que vous avez été au courant qu'il y avait un casting? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a mis dessus? Alexis?
Moi, je rentrais tout juste d'une tournée asiatique et le premier message que j'ai reçu en rentrant, je crois, c'était un message Facebook m'indiquant qu'il y allait avoir Grease à Mogador. Et ce qui m'a particulièrement surpris parce qu'il était censé y avoir le fantôme de l'opéra à ce moment-là. Et donc, du coup, bah, ce qui était tragique un petit peu pour toute la production et le cast du Fantôme de l'Opéra, mais moi, j'étais ravi parce que du coup, je pouvais éventuellement prétendre à Grease.
Et toi, Dorian?
Ouais, bah moi, c'est pas très loin non plus. J'étais en alternance sur deux spectacles à ce moment-là. Je faisais La Revanche Capitaine Crochet et le spectacle Yves Olivier sur la vie de Yves Montand. Et voilà, un peu comme beaucoup de gens dans le milieu, on suit beaucoup ce qui se passe en termes d'audition et de casting, et notamment autour du théâtre Mogador, ça fait partie des auditions un peu phares. Et voilà, c'est tout simplement sur Internet que le matin même que j'ai vu, bah tiens, il y a Grease qui arrive, ça s'adresse vachement à des jeunes qui peuvent être comme moi, en fait, un peu. Donc je me suis dit, bah c'est parti, quoi, on va y aller.
Et il y a eu combien de tours de casting?
Alors, si on compte tous les derniers rendez-vous, les coachings et tout, moi, j'en ai compté, je crois, 9 ou 10.
Ouais, moi, j'en ai passé 8, il me semble. Ouais, 8 tours qui sont quand même assez conséquents, parce qu'un tour, ça peut même aller jusqu'à quasiment une journée complète, en fait. Mmh. On repasse. Bah.
Mais... Sachant que pour cette audition, c'était particulièrement complexe, parce que tout le monde a plus ou moins des petits rôles. Et que le puzzle, en fait, du cast était particulièrement compliqué, sachant que chaque rôle est potentiellement la doublure d'un autre rôle. Et que, grosso modo, il y avait que 3-4 rôles qui étaient pas doublure de qui que ce soit, en fait. Danny, Sandy, Kenicky, Rizzo. Ouais. Sinon, le reste, et Jan aussi, mais sinon, tout le reste, en fait, était censé doubler...
D'autres rôles.
Doubler d'autres rôles. Et Frenchie aussi.
Ouais, Frenchie aussi, ouais.
Et donc, du coup, c'était particulier pour ça. Et puis aussi, parce qu'il s'agit de constituer pas que... En fait, parce qu'on pense au couple Danny Sandy, mais en fait, non, il faut constituer tout un groupe de T-Birds et tout un groupe de Pink Ladies. Et pour ça, il faut faire des combinaisons. Et le fait de faire des combinaisons, c'est particulièrement long pour tout le monde, en fait.
Ok. Est-ce que vous savez combien vous étiez au départ?
Bon, je sais pas exactement, mais on était plusieurs centaines, en tout cas, ça c'est sûr.
Alors,
un peu plus de 1000, non?
Après, nos chiffres à nous, c'était 3000, selon la police, on était 1000. Non, je sais pas, moi j'ai entendu 3000 candidatures et presque 1000 participants en tout.
Ouais.
C'est hallucinant. Tout ça pour 16 rôles?
Tout ça pour ça.
Ouais.
Pour 16 rôles.
Mais il y avait 26, je crois, 26 artistes en tout, si on compte
les
swings.
On avait les danseurs de l'ensemble qui devaient chanter aussi. On avait pas mal de choses aussi.
Ouais, c'était énorme, mais je pense que c'est les chiffres moyens de toute candidature pour les spectacles de stage entertainment à Mogador. À chaque fois, c'est comme le disait Dorian, en fait, c'est des auditions phares et l'événement un petit peu d'audition de l'année. En fait.
D'accord. Et justement, 8 tours, ça prend combien de temps?
C'était ça combien? C'était genre
combien de temps,
un mois et demi, non?
Un mois et demi, voire deux.
Ouais. Ouais, un mois et demi, voire deux mois au total d'audition. Après, il me semble qu'on avait des jours quand même consécutifs où on revenait le lendemain vers la fin.
Vers la fin.
Ouais, vers la toute fin. Ça y est, on revenait quand même plusieurs jours d'affilée pour tester des choses. Mais en règle générale, voilà, ça prend. Enfin, là, ça a pris deux mois et quelques pour Grise.
Qu'est-ce qui vous a semblé le plus dur dans les castings? Est-ce que c'est l'attente? Est-ce que c'est une discipline en particulier? Est-ce que c'est la compétition?
Bah moi, si je peux combiner deux choses, c'est l'attente et la compétition. Mais c'est l'attente, c'est la compétition pendant l'attente. C'est pas l'attente entre les tours. Le plus dur, c'est quand tu attends au théâtre même, dans la salle d'attente, et que tu vois tes potentiels concurrents en face de toi. Et c'est terrible. C'est terrible parce que c'est des gens que tu connais, mais tout le monde est là en compétition. Et c'est un mot qui est un peu vulgarisé, mais en fait, c'est ça. Ce qui est ingrat dans les auditions, c'est... Si t'es pas retenu, c'est pas parce que t'es pas bon, c'est que c'est qu'il y avait meilleur que toi sur ce rôle-là. Et en fait, c'est un concours.
Ou meilleure combinaison.
Et la meilleure combinaison aussi. Et c'est complètement ingrat parce que c'est aussi des questions de physique. T'es trop petit, t'es blond, t'es trop pâle, t'es trop bronzé. Enfin, c'est plein de critères que tu maîtrises pas du tout. Même si tu travailles énormément. Donc c'est ça en fait le plus dur pour moi. Ouais, c'est la compétition, mais l'ingratitude de la compétition.
Je pense que c'est en plus des choses qui peuvent totalement changer aussi en fonction des périodes aussi. C'est voilà, une année, ça peut combiner très bien comme ça. L'année suivante, peut-être moins. Pour potentiellement les mêmes rôles, les mêmes choses. Mais voilà, c'est des alchimies en fait, les auditions.
Est-ce que vous vous souvenez d'où vous étiez quand on vous a annoncé le final cut, le résultat final?
Moi, j'étais chez ma mère. Tout simplement, j'étais venu rendre visite à ma mère. Et puis c'est du coup le directeur de casting qui m'a appelé. Et en fait, je comprenais pas trop parce qu'il m'appelait en me disant bah c'est bon, tu feras le rôle de Doudy. Et moi, j'étais persuadé d'être en doublure en fait sur l'audition, donc je me suis dit ah bah du coup je vais danser sur le show et je doublerai Doudy. Mais non, en fait j'avais vraiment été pris quoi pour la première fois avec stage, donc c'était cool.
Bah moi, c'était un événement un peu particulier et pour être honnête, j'étais en train de vivre un moment un peu intime en famille parce qu'on venait de perdre quelqu'un de très très cher. Et en fait, quelques heures après, Stage m'a appelé pour m'annoncer une très très bonne nouvelle. Un rêve d'enfant qui se réalisait. Et c'est à partir de là où j'ai commencé vraiment à croire au cycle des énergies et au cycle de beaucoup de choses, et j'ai essayé de voir ça. C'était une façon pour moi d'entamer un deuil de façon très très positive, et c'est pour ça que je dois toute mon année de Grise à cette personne qui nous a quitté ce même jour.
Ok.
C'est pas très très gay, mais voilà.
Non,
c'est
mais
une façon un
temps,
peu positive.
En même temps, merci à toi d'en avoir parlé. On va arriver donc, on va débuter les répétitions, mais il y a une tradition dans ce podcast, c'est que pour passer d'une partie à une autre, il faut passer une épreuve, et c'est l'épreuve de la machine infernale. La machine infernale, c'est une machine qui tire une question au hasard. Et comme ce n'est jamais tellement le hasard, c'est vous qui allez avoir une part de jeu là-dedans, puisque c'est vous qui allez actionner la machine infernale.
C'est pour toi la question du coup?
Non, c'est pour tous les deux. Elle a du mal.
Lucky wheel.
honnêtement, j'espérais que vous tomberiez dessus.
Ok.
Attends, le plus gros fou rire, mais sur quel mois, du coup? Parce que sur quelle
notre
semaine?
Le plus gros fou rire, de quel jour?
Sur quelle représentation?
Il y en a plein.
Tellement, en particulier sur Grise, parce que c'était un spectacle qui se prêtait beaucoup à ça, en fait. On était tellement une bande de potes. Très honnêtement, sur scène, comme en coulisses, on était au lycée, on était à Rydell. Et donc, du coup, des fois, on était tellement dans notre bulle qu'on se marrait tellement sur scène, mais à moitié dans nos personnages en plus, c'est ça le pire.
Ah ouais, ouais. Mais je pense qu'on s'est, il n'y a pas eu un show, en fait, on n'a pas pu avoir de fou rire. Enfin, tous les shows étaient un fou rire, vraiment. Ça a été vraiment très particulier. Moi, je pense que personnellement, mes plus gros fou rires, je les dois à ma partenaire, Floris Souris, parce qu'elle a une manie continuelle, en fait, de tomber. Elle tombe tout le temps.
Ah ouais,
c'est vrai. Elle fait que tomber. Après, si je peux raconter une petite anecdote avec Alexis, parce qu'on est tous les deux là, parce que je pense que je pourrais, ce serait impossible de choisir un fou rire avec Flori, parce qu'il y en a, voilà, il y en a trop. Mais avec Alexis, il y en a un qui me vient en tête. C'est un fou rire que j'ai vécu un peu seul, du coup, en fait. Je me suis retrouvé à, voilà, c'est le moment de ma chanson, en fait. Donc, je monte sur scène, c'est le premier solo du spectacle. Ah. Et tout commence par le fait que je me suis acheté une guitare. Donc, on est sur cette histoire-là. La scène juste avant, on est tous les T-Birds ensemble sur des escaliers. Moi, j'ai ma boîte avec ma guitare à l'intérieur. Je l'ai posée sur les escaliers. On sort tous de scène, mais voilà, Doudy veut revenir pour aller jouer son morceau de guitare. Je reviens, je commence et tout démarre sur le fait que je pose ma radio, j'allume la radio, j'ouvre la housse de guitare, je prends ma guitare, sauf que bah il y avait pas de guitare parce que Alexis, on était un samedi après-midi, voilà, on avait fait déjà un premier show pendant la journée, on avait le deuxième show le soir et Alexis avait eu la bonne idée d'aller s'entraîner avec ma guitare entre les deux shows, sauf que bah il a oublié de la remettre dans la caisse quoi, donc bah je suis arrivé sur scène sans guitare pour un numéro entièrement basé sur une guitare, donc ça c'était un fou rire pendant très longtemps après.
Je m'en suis voulu, mais pendant pas combien de temps, et vraiment c'était horrible cette sensation où vraiment le sol s'écroule parce que j'étais mes pépouses, mais vraiment en coulisses, en train de le regarder, en train de me dire genre putain c'est vrai il chante bien Dorian.
Et le moment où t'as couru sur
et d'un coup j'ai jamais couru, mais que enfin c'est vraiment Usain Bolt de la comédie musicale quoi. j'ai foncé dans ma loge récupérer la guitare parce que je le vois ouvrir le caisson, sa caisse à guitare, et là je me dis genre et en fait c'est au-delà de ça, c'est tout le numéro qui mais Dorian étant Dorian, il s'est vraiment bien rattrapé. Dorian étant Dorian, il m'en a pas voulu, et donc du coup voilà, c'était l'un des pires moments pour moi. Enfin lui il s'en est marré, moi j'étais tellement mal pendant.
Bon, on s'en marre bien quand même après, mais bon,
on s'en marre du coup après, mais voilà.
Merci d'avoir fait, d'avoir partagé ce moment. Alors on passe à la deuxième partie, Top Jingle. Est-ce que tous les deux vous connaissiez avant les premières répétitions?
Non, on se connaissait pas. Moi j'avais déjà vu Alexis sur scène. Je crois que je t'avais découvert dans Aladdin. Non, c'était dans Gaston.
Dans La Belle et la
Bête. Avant ça, ouais, dans La Belle et la Bête. Mais non, on se connaissait pas, on s'est vraiment découvert sur Grease, nous.
Et combien vous avez eu de semaines de répétition?
Il y a quoi, deux mois?
Deux mois.
Ouais, je crois qu'on a eu deux mois de travail, ouais, de répétition.
Parce qu'en plus, on a eu deux semaines de répétition pour un événement sur TF1, la chanson de l'année.
Ah oui.
Donc, non, un peu moins que ça, non?
C'était pas... 10 jours, alors peut-être. Non, une semaine peut-être.
Ouais, une semaine.
Pour la fête de la musique.
Un gros événement.
Gros event où on devait être hyper calé, donc ça faisait office de répétition aussi quand même.
D'accord. Le moment que vous avez préféré dans les répétitions?
Je me rappelle d'un moment où j'ai particulièrement aimé ma journée, parce qu'en fait, Grease, c'est aussi cette licence qui a été faite au théâtre Mogador, c'est une adaptation de la tournée hollandaise. Et en fait, il s'avère qu'en Hollande, je pense pas trahir quoi que ce soit, mais en fait, c'était une célébrité qui jouait le rôle de Danny, mais qui dansait pas beaucoup, beaucoup. Et je me rappelle du jour où, en fait, on a adapté la scène du bal et notre solo à Danny et Sandy, ainsi que celui de Danny et Cha-Cha. Et on a complètement adapté ça, et le chorégraphe était absolument génial, parce qu'il a vraiment été à notre écoute. Et j'ai pu caler un petit peu mon idée du Danny qui se rapprochait beaucoup de Travolta, et ça c'était vraiment un super souvenir, parce que j'ai pu vraiment apporter vraiment ma touche là-dedans, surtout dans le domaine de la danse qui n'est pas du tout mon domaine de prédilection, et voilà, c'était un super souvenir. Ça
se voit pas en tout cas,
Surtout qu'il a dansé comme un dieu quoi toute l'année.
Oh.
Et après, donc, les répétitions, à la fin des répétitions, il y a ce qu'on appelle les previews. Alors, on va expliquer un peu ce que sont les previews pour les gens qui ne connaissent pas.
Mais en fait, tout simplement, c'est les premières représentations, pardon, qu'on donne sur scène devant un public. Mmh. Voilà, il me semble qu'il y en a 9 qu'on en a fait, nous, 9 ou 10.
Et la 10e, c'est la première.
Ah, voilà, 10e, c'est la première. Et le but, c'est de roder le spectacle, d'avoir un public qui vient en sachant qu'il vient encore à des répétitions générales. Et ça permet après, derrière, d'avoir une vraie qualité de spectacle pendant l'année. C'est royal, en fait, d'avoir ça. Ça nous permet vraiment de nous arriver à la première en connaissant le plateau, connaissant le son, en ayant eu le temps un peu de s'habituer au costume, comment on vit le show aussi de l'intérieur. Et c'est très important.
Il faut savoir, pour le public qui vient voir cette période de 10 jours de preview, que s'il vient avec, il me semble, des tarifs préférentiels, c'est aussi parce qu'il ne verra pas un spectacle qui est fini. Nous, tous les jours, on changeait des choses, surtout, particulièrement sur Grise. On a changé pas mal de choses d'un show à l'autre le lendemain, parce que tous les soirs, il y avait un espèce de brainstorming qui se faisait. Le lendemain, on était en répétition pour retester ce qui n'avait pas marché la veille. Et ça peut être des placements de chorégraphie, comme ne serait-ce qu'une blague qui tombe complètement à plat et sur quoi on essaye de travailler.
Et justement, alors ce qui est très important, et vous l'avez dit, c'est que le public assiste à une sorte de répétition générale et il est notifié au public que la représentation peut être interrompue en cours de route.
Ouais, ça fait partie du jeu.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Parce que moi, j'en ai fait des previews à Mogador, j'ai jamais vu une interruption.
Si, moi, ça m'est arrivé sur La Belle et la Bête.
Sur Grise, non.
Sur Grise, non, mais sur La Belle et la Bête, mais c'était un problème technique. Alors, c'était bien dommage parce que c'était l'arrivée de Big Ben et Lumière. Et ça a été stoppé, mais juste pour un problème technique.
Et c'est laquelle la preview qui fait le plus peur? C'est la première ou la dernière, parce qu'on sait que le lendemain, c'est la générale?
Je crois que pour ma part, c'était la première quand même.
Ouais, c'est aussi la première, parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on le fait devant un public. Vraiment. Après, la première de gala, c'est encore autre chose, parce que nous, en fait, on a déjà 9 shows dans les pattes, ce qui est absolument énorme. Et donc, ça veut dire qu'on a 9 salles pleines de public. Et donc, on commence à savoir. En fait, c'est assez pour se mettre dans le bain. Après, le stress qu'il y a par rapport à la première de gala, c'est qu'il y a beaucoup de presse, beaucoup de journalistes. Et en ça, on se dit, bon, si ce soir il y a une note qui part, c'est pour moi, c'est dans la presse demain. Mais bon, si on se fait un petit peu confiance et confiance en nos camarades, normalement tout doit bien se passer ce soir-là. Le vrai stress, il est la première fois qu'il y a un public.
Après, en plus, des spectacles comme Grise, c'est un peu particulier parce que voilà, ça se joue beaucoup sur les effets comiques, la façon dont on dit les choses. Et ça, c'est le comique en particulier sur scène, pour moi, c'est une des choses les plus tangibles, enfin les plus compliquées à gérer, parce que ça se fait que avec quelqu'un en face pour avoir la réaction, ça se fait que avec une première réaction aussi. Donc c'est parfois difficile en répétition de répéter des vannes qui font rire plus personne
et qui c'est vrai en plus.
Qui derrière, en fait, on doit arriver et savoir que voilà, un effet comique, ça peut se louper à une fraction de seconde, il rend pas du tout la même chose. Donc d'en arriver à là, bah ça se teste une fois qu'il y a des gens. Et
inversement, d'avoir une surprise, de dire, ah, je m'attendais pas à ce que ça fasse rire.
Exactement.
Ça.
Et par contre, le gros avantage de ça, c'est pour ça que moi je préfère toujours jouer dans le comique, c'est que ça ne s'essouffle pas.
Ouais.
C'est quelque chose qu'on peut continuer à faire durer pendant un an, continuer de changer, ne serait-ce qu'une petite façon de dire quelque chose, et la réaction en face est totalement différente.
Donc c'est
ça,
un timing.
C'est inépuisable, quoi.
C'est basé sur le rythme.
Ouais.
Et comment on se sent après la première?
La première de gala?
Ouais.
Après la première de gala, moi j'étais très ému parce que ma famille vient voir toutes mes premières, et donc du coup, en fait, j'ai toujours besoin d'un moment avec mon papa et ma maman, quel que soit le spectacle. J'ai besoin de 5 minutes avec eux, où voilà, on débriefe un peu du spectacle. C'est toujours très positif, merci à eux, mais voilà, moi je me suis surtout senti soulagé à partir du moment où mes parents avaient aimé le spectacle. Et puis là, j'étais apte à aller voir tout le reste de la salle.
Toi aussi, il y avait ta maman dans la salle.
Ouais, il y avait ma maman et puis, en plus, je me disais qu'après, on allait faire bien la fête. Ça, c'était un gros truc aussi. Je crois qu'après la première, quand je me disais, après, on pourra avoir beaucoup d'alcool, on pourra s'amuser, on pourra lâcher les chevaux. Ça, c'est pas mal aussi après la première de gala. Mais ouais, c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas plus gratifiant et il n'y a pas meilleure sensation après toutes ces périodes d'audition, les répétitions, les previews, tout, quand ta famille, tes amis proches sont là dans la salle. Que voilà, t'as cette sensation de fierté aussi de présenter, voilà, toute la presse qui est là, tous les copains sur scène qui font le show avec toi. S'il n'y a pas de mots, je pense, pour décrire une sensation comme ça.
Très bien, dans la prochaine partie, on va parler plus de l'exploitation du show pendant l'année. Mais avant de passer à la prochaine partie, c'est la tradition, la machine infernale.
J'ai trop de force, regarde, ça dure. ça dure. Beau.
Ah.
Plus beau compliment d'un spectateur.
Alors moi, si je peux placer un truc, c'est pas vraiment un spectateur, mais on m'a fait un compliment. C'est John Travolta qui m'a dit à Cannes. Il m'a dit, c'est comme si je me regardais dans un miroir, mais plus jeune.
Ah yes.
Ah, pas mal.
Voilà.
Pas mal.
Quand j'étais présenté à lui par Randall Kleiser, le réalisateur. Voilà, c'est pas vraiment un compliment de spectateur, parce que j'ai vraiment eu des gens hyper touchants qui m'ont dit plein de choses. Après, c'est peut-être un petit peu pudique ce que les gens me disent, et donc j'ai un petit peu du mal à le partager. Mais en général, quand les gens vous disent qu'ils regrettent pas du tout, qu'ils ont grandi avec le film, vous avez l'impression de partager ça avec eux, parce que moi j'ai grandi avec le film. Et surtout quand ils vous disent qu'ils ont traversé toute la France pour venir voir le spectacle et qu'ils sont pas déçus, qu'ils ont fait un week-end en famille. On sait ce que ça représente quand on déplace toute une famille dans un week-end à Paris. Au-delà du budget, on sait ce que ça représente aussi pour l'implication des gens. Et quand les gens sont pas déçus, qu'ils vous remercient, c'est le plus beau des compliments qu'on puisse nous faire.
Merci. On passe à la troisième partie. Un an à Mogador en coulisses. Alors, en coulisses et particulièrement en loge, hein. Comment on aménage sa loge quand on va s'y installer pendant un an? Est-ce que vous avez beaucoup investi les lieux, ou au contraire, sac à dos avec tout dedans?
Moi, j'ai fait... en fait, quand on investit sa loge avec Alexandre Fetrouni, déjà, c'est quelque chose, parce qu'on sait l'année qu'on va passer. Ça va être festif, ça va être joyeux, et tout de suite, on a mis beaucoup de guirlandes, beaucoup de posters, et en fait, parce qu'en fait, on voulait retrouver cette ambiance de La Belle et la Bête, qu'on a réussi à faire, parce qu'en général, on n'arrive pas à faire les choses deux fois. Et là, on l'a tout de suite fait, et puis, comme pendant La Belle et la Bête, Alexandre et moi, on s'était pris une petite après-midi, pas loin de Mogador, pour faire des courses, pour aller, dans un magasin de déco à côté, et acheter des éléments, parce qu'on savait qu'on allait y passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans cette loge, et on voulait s'y sentir comme chez nous, et on s'est acheté plein de petits trucs, des petits coussins, des petits posters, des petits éléments de déco, quoi. Et surtout, dès que... Moi, c'est un truc que je fais, que lui, il fait aussi, dès qu'on recevait un dessin, une lettre, une photo de fan... ou de spectateurs ou autres, et en fait on la mettait et on l'accrochait. Comme ça, c'était une façon à nous de nous dire tous les soirs pourquoi est-ce qu'on faisait ce métier.
Waouh. Et toi, Dorian?
Ouais, chez nous, en fait, on s'est installé du coup sur la fin des répétitions. Je crois qu'on a passé les premières previews, on était un peu timide, un peu dans la loge, on va dire, par rapport à la déco. C'était un peu tranquille à ce moment-là. On investissait un peu le lieu, et puis bon, bah voilà, c'est comme la tradition le veut, on arrive à la première de gala et on a des cadeaux partout, on ouais. Savent tous des cadeaux, et tous des photos, des choses à accrocher, donc voilà, c'est un peu parti de ça chez nous, et ça s'est pas arrêté, après chacun avec sa façon d'être. Voilà, moi, il y a Jérémy Petit, par exemple, qui adore les huiles essentielles, et qu'on avait un magasin, en fait, d'huiles essentielles dans notre loge, donc avec l'odeur qui va avec. Non, je plaisante. Non, bisous Jérémy.
si, c'était Naturalia, hein, la loge de Tibor.
Plus sérieusement, est-ce que vous pouvez nous faire la journée type depuis le moment où on arrive à Mogador jusqu'à la fin?
Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il y avait peu de journées type, finalement. C'est le spectacle que j'ai fait où j'ai eu le plus de répétitions, je crois.
Ouais.
Parce que comme on l'expliquait tout à l'heure, il y a tellement des rôles qui doublent d'autres rôles qu'il y avait tous les jours un raccord. Et on s'est toujours dit par expérience sur La Belle et la Bête, moi je m'étais dit, bon, à partir du moment où les deuxièmes doublures font leur poutine, leur premier show, c'est bon, il n'y a plus trop de répètes, il n'y a plus trop de raccords à faire. Donc c'est aux alentours de mars, avril, ça se calme un peu. Mais là, sur Grease, ça a été jusqu'à début juillet. Ouais. On s'est arrêté le 8 juillet, ça a été jusqu'à... Je crois qu'il y a eu des répètes jusqu'au 7.
Ouais, jusqu'au bout, en fait.
Jusqu'au bout. Mais bon, on va quand même répondre à ta question.
Ouais, ouais, non, mais après faut se rendre compte aussi dans ce qu'il dit, la raison, c'est-à-dire que... notamment par rapport aux répétitions, si pour ma part par exemple je devais doubler également Alexandre Fetroni, donc le rôle de Eugène, donc moi je jouais le rôle de Doudy, donc faut se dire que si moi je double le rôle de Eugène, il faut quelqu'un qui fasse Doudy, cette personne qui fait Doudy vient souvent de l'ensemble, donc il faut quelqu'un qui aille danser à sa place dans l'ensemble, donc on fait toujours des puzzles, et c'est pour ça qu'on est souvent en répétition continuellement. Et une journée type, je dirais que on arrive en début d'après-midi, vers 13h, on répète tout l'après-midi, on va en warm-up, donc à notre échauffement vers 18h15. Et suite à ça, après l'échauffement, chacun avec ses activités, son maquillage, sa coiffure, ses rendez-vous en coiffure et en loge maquillage, le costume, et puis sur scène, le show, et salut la compagnie.
Est-ce que vous aviez des rituels avant d'entrer en scène ? Ouf.
Oui.
Ouais. Nous, on en avait un.
Surtout les Birds et les Pink.
Les T-Birds et les Pink Ladies, on en avait un qu'on avait très 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 vite instauré. On se mettait tous en cercle. Après, ça dit à tout le monde toi toi, donc se dire merde les uns les autres. On se retrouvait juste les T-Birds et les Pink Ladies sur scène. On avait un truc où on disait vraiment Birds Pink, Birds Pink, Birds Pink, Birds Pink, Birds Pink. Voilà, en boucle jusqu'à qu'on monte sur scène. Et on avait un geste avec, voilà, tous en cercle. C'était un peu ça. Après, moi j'avais mon truc particulier avec Flory, mais. Mais je peux pas le dévoiler parce que c'est intime.
D'accord.
Nous, on commençait avec Alizé parce que sur l'ouverture, c'était le Summer Nights, mais version Summer, pour le coup, sur le coucher de soleil. Et on commençait que tous les deux. Pendant qu'ils faisaient leur Birds Pink, Birds Pink, Birds Pink, nous, en fait, on était en train de chanter. Et en fait, on commençait sur une espèce de plateforme qui se soulevait, un élévateur, ouais, ils appelaient ça le tampon.
Ouais.
Et nous, on commençait dessus. Et notre petit rituel, c'était que, en fait, elle s'accrochait à moi. Et pendant que le truc était soulevé, et moi, je mettais le bras en l'air comme si j'étais Superman, qui agrippe Lois Lane et qui s'envole. Voilà, c'était notre petit truc à nous.
Est-ce qu'il y a eu des dates spéciales avec des invités, vos parents dans la salle, c'était à la première, mais est-ce qu'il y a eu des dates un peu particulières dont vous vous souvenez ?
Il en parlait tout à l'heure Alexis, mais on a eu par exemple Randall Kleiser, qui est le réalisateur du film, qui est quand même venu nous voir pour la 200e, non ? Un truc comme ça ?
Non, pour les 40 ans, ah oui, mais c'était pas loin de la 200e, ouais, c'est ça.
C'était à côté de la 200e, pour fêter les 40 ans du film. Ça, je pense que c'est un des trucs inoubliables, je pense, dans cette année de Grease en tant qu'invité spécial. Enfin, on peut pas faire plus spécial, quoi. On est à l'origine même du projet avec celui qui l'a pensé, même si la communicale existait déjà auparavant et qu'ils l'ont créé en film. Voilà, les images qu'on en a, en tout cas, pour ma part, c'est Olivia Newton-John et John Travolta, et on y est complètement, quoi.
Très bien. Parlez-nous enfin de la dernière.
C'était particulièrement émouvant dans le sens où en fait on était tous très attachés à ce spectacle, à nos personnages, à notre groupe, et on savait. Après c'est pas tout le temps une règle à Mogador, parce qu'on le verra bien la saison prochaine, mais en général quand tu finis un spectacle à Mogador, tu sais que tu le joueras plus. Il n'y a pas de reprise, il n'y a pas de tournée, il n'y a pas ce genre de choses pour finir un petit peu l'année. Et donc, bizarrement, on s'est tous dit qu'un an, c'était pas assez, qu'on avait envie de continuer. Même si on était tous crevés, en fait, il y avait un tel bonheur de jouer tous ces personnages. Et surtout parce que en fait, on était à la vie comme sur scène, quoi. On avait vraiment le groupe des Pink Ladies, le groupe des T-Birds, on avait tous nos liens interpersonnels. Après, la vie a fait quand même qu'on est restés tous très proches, même dans la vie. Mais c'était particulièrement émouvant, ouais.
Puis je pense, dans tout ça aussi, il faut se dire qu'on passe un marathon, quoi. Enfin, Mogador, pour Grease, c'était quasiment 300 spectacles. sur un an, c'est énorme en fait, c'est énorme. Et je crois que même à travers la tristesse de s'arrêter, il y a une part de soulagement dans un sens de se dire, pour être honnête, hein, il y a un truc qui m'a fait un peu genre, on est allé au bout, on l'a fait, donc c'est là tu ressens vraiment un peu de fierté, un peu de truc, de dire bon, on y est allé quoi, on a fait tous ces mois là de show, on l'a fait ensemble, donc tout ça c'est relié aussi au fait que on s'aime tous quand même très très fort, qu'on est tous très amis au-delà du spectacle, et que on est en même temps désemparé de se quitter, et waouh quoi, c'est fait, c'est fini.
C'est la dernière partie du podcast, c'est la reformation du cast de Grease, top jingle. Le cast se reforme pour une soirée spéciale le 31 décembre à Paris, un réveillon Grease is Paris.
C'est ça.
Tu peux nous en parler un peu plus, Noriane ?
Ouais, bien sûr. Alors nous, quand je dis nous, c'est Flory Souris, ma partenaire qui jouait Frenchie, et moi. Il y a un de nos amis, toute une compagnie qui l'a créé, une société là récemment qui s'appelle Tux Event. On s'est associé à Tux Event pour créer une soirée qui est un peu hors du commun. C'est-à-dire qu'on est parti en se disant, et si on faisait un réveillon ? On a cherché des thèmes. On a exposé plein d'idées différentes et puis on s'est dit, et si en fait on faisait un réveillon Grease ? Et c'est un peu parti d'une blague au départ. On s'est pas dit qu'on le ferait vraiment et en fait on le fait et puis on y est. En fait, le principe c'est que c'est une énorme soirée qu'on prévoit pour le 31 décembre qui va se passer dans un lieu qui est incroyable, qui est l'UIC Congrès en fait, qui est l'Union Internationale des Chemins de Fer. Donc c'est un lieu qui n'est même pas ouvert normalement au grand public. Incroyable, qui est tout en marbre blanc. Enfin, notamment nous, on va utiliser cette salle magnifique qui est tout en marbre blanc avec un escalier bleu en colimaçon, qui est très typique de ce lieu-là. En fait, pour parler un peu du lieu, en fait, c'est l'endroit où beaucoup de décisions dans le monde sur autour des chemins de fer se prennent. En tout cas, les décisions se font là-bas. Et nous, on a décidé de trouver un partenariat avec ce lieu-là. C'est là-bas qu'on va créer Grease is Paris, donc c'est notre événement. Donc il y a toutes les infos qui sont sur internet, sur le site www.greasisparis.fr. L'idée c'est que le cast se reforme, pas au complet. Voilà, on a réussi à réunir parmi 8 des personnages principaux de Grease que vous avez pu découvrir à Mogador pour cette soirée de réveillon qui va avoir une première partie où les gens vont tous être accueillis autour de plusieurs stands de buffet américain. On va servir, que ce soit des entrées, plats et le dessert, des machines de barbapapa, il y aura pas mal de surprises, je peux pas trop en dire non plus, mais il y aura pas mal de surprises grises dans le lieu. Les gens donc seront tous accueillis sur un tapis rose, une coupe de champagne, un magnifique photocall qu'on est en train de finaliser, de créer autour du thème Grease. Et bien sûr, le clou de la soirée, après avoir eu un chanteur live pendant toute l'arrivée des gens, qui nous met vraiment dans l'ambiance 60s, c'est qu'on a un vrai showcase qui est présenté pour la première fois au grand public depuis la fin de Grease, avec 8 des acteurs principaux de Grease. C'est ça qui lancera en fait le décompte de minuit, et puis à minuit, ça part en énorme nightclub en fait sur les 2 étages, toujours dans l'univers de Grease, mais on est vraiment sur un nightclub dans la thématique de Grease. Mais on va partir vraiment de l'idée que nous on accueille les gens pour une soirée exceptionnelle qui est surtout devant la Tour Eiffel en nightclub.
Est-ce qu'on peut citer les artistes qui feront partie du cast ?
Ouais, bien sûr, mais je vais vous en dire une partie en tout cas, mais je vais pas tous les dévoiler. Mais déjà on aura Alexis Loison qui est avec moi, Alizé Lalande, donc on reforme le duo Danny Sandy. On aura Yanis avec nous, Yanis Sia qui jouait Kenicky. On aura Frenchie qui sera Flory Souris qui interprétera aussi un morceau dans le showcase qu'elle n'interprétait pas d'ailleurs dans la comédie musicale, mais ça c'est une surprise.
Oh là là, il y aura même des inédits,
bonus. Ah oui, il y a pas mal d'inédits. On crée une énorme surprise, je pense, autour de ce showcase. On est vraiment en train de monter quelque chose de très gros et qui j'espère plaira au public.
Alors, tu l'as dit, on peut retrouver les infos sur le site internet de l'événement.
greasisparis.fr.
Vous avez aussi des réseaux sociaux ?
Exactement, on a l'Instagram de Grease is Paris, le Facebook de Grease is Paris. Après, si je peux vous donner une petite exclue par contre qui n'est même pas en ligne pour l'instant, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, vous allez retrouver dans tous les HD Dinners de la région parisienne un menu spécial qui sera autour de Grease is Paris, qui s'appellera Grease is Paris. Mais j'en dis pas plus pour le moment, je vous laisserai découvrir ça la semaine prochaine.
Grease is Paris, c'est une première, mais certainement pas la dernière en
non,
tout cas.
Non, certainement pas. Certainement pas, et voilà, peut-être pas sur Grease la prochaine fois, peut-être sur autre chose, mais voilà, j'espère que le public sera fédéré autour de ce projet de réveillon. Je pense qu'il vaut le coup, c'est un lieu comme il n'y en a pas, et comme j'en connais pas, pour fêter le réveillon à la Tour Eiffel.
Oui, en face de la Tour Eiffel,
en fait,
sur
c'est vraiment
à la
Tour Eiffel, oui, voilà. Il faut vraiment se dire qu'on sort au balcon, il y a la Tour Eiffel devant le balcon. On ne peut pas être plus proche. Et surtout autour d'une thématique où vraiment on essaye là d'amener enfin des soirées nightclub avec des artistes qui amènent une vraie performance et de sortir un peu des carcans de l'habituelle boîte de nuit où on a des performances classiques et qu'on essaye vraiment d'amener quelque chose de nouveau et j'espère que ça fonctionnera.
Un grand merci à tous les deux d'avoir gravé les grèves de transport et surtout d'avoir réagi en quatrième vitesse quand j'ai proposé d'organiser cet épisode spécial Noël. Un grand merci également à nos auditeurs d'être toujours plus nombreux. Vous pouvez retrouver les anciens épisodes du podcast sur toutes les plateformes comme Deezer, Apple Podcasts, Spotify et les autres. On est partout de toute façon. Vous ne pouvez pas nous louper. Laissez-nous des commentaires positifs de préférence sur ces applis et notez le podcast en mettant des étoiles. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram en tapant Beau Métier Podcast tout attaché précédé du arrobase Beau B-O. Le générique de l'épisode s'appelle A Long Cold et a été composé par Riot. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année à vous deux. Et à vous, auditeurs, et on se retrouve très vite l'année prochaine. Merci.
Merci.